Bonjour à tous, je suis Virginie Gilly, consultante RH et enjeux humains à CCI Formation Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle série de podcasts 100% dédiés à la valorisation de la fonction RH en lien avec les évolutions du 21e siècle. Alors comment faire évoluer ses pratiques, ses missions et sa posture RH en lien avec les nouveaux enjeux humains d'aujourd'hui et de demain? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir avec nous tout au long de notre nouvelle série complète de podcasts que vous pourrez bien sûr retrouver sur notre site internet www.cciformationpro.fr. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet clairement d'actualité, d'un sujet qui nous concerne tous dans notre quotidien, c'est celui du développement durable et de la RSE. RSE, responsabilité sociale des entreprises. Alors, on est tous impactés parce que finalement, ces questions de l'environnement, du développement durable, ça concerne les services publics, l'éducation, l'urbanisme, nos déplacements, nos modes de consommation. Et puis, on le voit aujourd'hui, on a l'émergence de différentes entreprises à mission, comme par exemple Time for the Planet, assez bien connue aujourd'hui. Et puis, il y a eu dans l'actualité la Convention citoyenne aussi pour le climat, ou la dernière loi climat et résilience qui date de l'été 2021. Alors, on le voit, tous ces sujets de la vie quotidienne entre également petit à petit dans l'univers de l'entreprise. Et pour pouvoir parler de ces sujets-là et donc du rôle des RH vis-à-vis de cette problématique, eh bien j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux de nos formateurs que je vais vous présenter tout de suite. Donc j'accueille pour commencer Flore Bertrand de la société We Can Be, qui intervient pour nous sur la conduite de projet RH, mais aussi sur les thèmes de la marque employeur et de la déclinaison RH des politiques RSE justement. Bonjour Flore.
Bonjour Virginie, bonjour à tous.
Et j'accueille également Walter Vézine de la société Strat2Be, qui intervient pour nous sur les thèmes de la RSE et du développement durable. Bonjour Walter.
Bonjour Virginie, merci pour l'invitation.
Merci à vous. Alors première question que j'ai envie de vous poser du coup, Walter, comme on vient de le voir, ces sujets environnement, développement durable, RSE, entrent aujourd'hui dans l'univers de l'entreprise. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi est-ce que ce sont des sujets qui ne restent pas exclusivement dans la sphère publique, voire dans la sphère politique ?
Alors, tout d'abord, Virginie, je pense que c'est lié au contexte actuel, et notamment au réchauffement climatique, qui a engendré, dirons-nous, une forme de prise de conscience de l'opinion publique, et notamment avec les particuliers. Et d'autre part, on a été confronté ces derniers temps à un accélérateur, lié notamment à la crise du Covid, qui a indéniablement remis en cause les modes de consommation du public en général. Et par voie de conséquence, on a eu une prise de conscience des entreprises. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a véritablement le monde professionnel qui change et qui s'adapte au développement durable et à la RSE.
Justement, du coup, Walter, la deuxième question que je voulais vous poser, c'est un petit peu des apports sur la définition un petit peu de ces concepts, parce qu'on en entend beaucoup parler, mais finalement, est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est ? Quelle est la différence entre le développement durable et la RSE ? Et surtout, finalement, pourquoi est-ce que les entreprises ont tout intérêt de s'emparer du sujet ? Quelles sont les opportunités offertes aux entreprises d'avoir une vraie stratégie RSE aujourd'hui ?
Alors, pour répondre déjà dans un premier temps à la différence entre le développement durable et la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est sensiblement la même chose. Et une différence près, le développement durable, c'est en gros le développement qui répond aux besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Donc, en gros, c'est pour faire mieux qu'avant en termes de consommation. Et la RSE, c'est véritablement quelque chose qui était adapté aux entreprises, c'est-à-dire nous n'avons pas les mêmes leviers d'action. Donc du coup, on a adapté les modes de fonctionnement en mettant en place justement un référentiel, l'ISO 26000, qui va régir toutes les actions qu'on va pouvoir faire en entreprise. Voilà la différence notable qu'il y a entre le développement durable et la RSE.
Et alors pourquoi les entreprises aujourd'hui s'emparent entre guillemets du sujet ? Pourquoi est-ce qu'on voit de plus en plus de rapports RSE par exemple sur les sites internet des entreprises ?
Alors il y a deux enjeux majeurs aujourd'hui pour les entreprises de pouvoir répondre en ce sens. C'est tout d'abord, premièrement, de créer un cercle vertueux qui va se faire entre les clients, les fournisseurs et les collaborateurs d'une société. Le deuxième enjeu majeur, c'est le greenwashing qu'on a pu rencontrer sur les années précédentes. Et aujourd'hui, les entreprises ne veulent pas reproduire ce schéma-là et ils ont besoin de référentiels pour mettre en œuvre une vraie démarche avec une vraie stratégie pour mener à bien le changement et la transformation des organisations vers le développement durable.
Oui, oui, on l'a vu, ça fait partie de ces nouvelles générations aussi qui choisissent aussi l'entreprise dans laquelle elles vont travailler en lien avec les efforts, entre guillemets, environnementaux de l'entreprise, justement. Alors, on comprend bien l'opportunité qu'il y a pour les entreprises de pouvoir évoquer et traiter de ces sujets-là. Maintenant, concrètement, qui c'est qui s'en occupe dans l'entreprise? Qui est-ce qui va prendre le sujet de la RSE et du développement durable?
Alors, ce qu'il y a d'intéressant avec la RSE, en effet, c'est que l'ensemble de l'entreprise peut s'approprier et mettre sa pierre à l'édifice de ce changement, de cette transformation. Du coup, en termes de pilotage, aujourd'hui, on a une forte tendance à voir des services comme le marketing et la communication, ou alors les ressources humaines, prendre à bout de bras ces sujets. Mais dans une manière plus globale, c'est vraiment l'ensemble de l'entreprise, avec tous les collaborateurs qui constituent l'entreprise, qui vont pouvoir justement animer cette démarche de la RSE.
Oui, et puis c'est un projet qui doit être soutenu par la direction.
Tout à fait. L'état d'esprit majeur dans la RSE, c'est que c'est les collaborateurs qui vont animer, mais il faut que ça soit quand même porté par la direction.
Ah oui. Alors du coup, Walter, vous nous soulignez que des fois, ça peut être les services RH justement qui vont porter le projet. Et je crois que vous, Flore, il me semble que vous avez un exemple, un témoignage justement de pilotage RSE porté par la DRH.
Oui, alors effectivement, ça dépend des structures. Ça peut être bien sûr porté par la DRH. Dans une entreprise dans laquelle j'ai été, ça a été porté, parce qu'on était sur une entreprise industrielle de produits, plutôt par le marketing et la direction R&D, qui conjointement, en fait, ont piloté le démarrage d'une démarche RSE en s'appuyant, en étant appuyé par un cabinet extérieur qui était spécialiste du sujet. Parce que c'est souvent, effectivement, une difficulté au départ, c'est qu'on n'a pas la compétence dans l'entreprise. Tout le monde peut se saisir du sujet, mais on manque parfois de structuration et d'expertise. Et puis, surtout, ce qui a été très important dans la démarche, c'est que toutes les parties prenantes ont été intégrées et que ces deux directions ont fondé un comité de pilotage où toutes les autres directions, toutes les autres fonctions étaient présentes, achat, RH, production. Et c'est ça qui fait la force d'un projet RSE, c'est quand tout le monde est impliqué.
Ah oui, parce qu'on l'a bien vu, hein, ça nous concerne tous en tant que collaborateurs, mais aussi en tant qu'individu, hein, finalement, en tant que consommateur dans la vie quotidienne. Alors, justement, si on fait un petit focus maintenant un petit peu plus vers les ressources humaines, finalement, quelles sont les déclinaisons sociales ou RH de la RSE? Dans quel domaine RH on va pouvoir traiter de la RSE? Et est-ce que finalement, on n'en fait pas un petit peu sans le savoir déjà?
Aussi, certainement. En fait, la RSE, c'est très vaste. Les applications dans le domaine RH sont très vastes. Donc, je vais vous donner quelques exemples, mais qui ne sont pas exhaustifs. Ça peut être déjà de développer une politique de diversité et de prévenir les discriminations. Ça peut être de travailler, par exemple, sur une politique d'inclusion en faveur des personnes en situation de handicap. C'est également assurer l'égalité professionnelle. Entre les hommes et les femmes, sur la rémunération par exemple, donc aller plus loin que l'index égalité pro. Ça peut être également mettre en place une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, assurer une employabilité durable. Comment on fait en sorte que ces collaborateurs, tout au long de leur vie professionnelle, soient employables à tout moment, que leurs compétences soient à jour, qu'ils puissent demain être en mobilité dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise. C'est aussi proposer une rémunération équitable et durable, par exemple par le biais de l'épargne salariale. Un autre exemple, c'est favoriser une démarche de qualité de vie au travail et prévenir les risques psychosociaux. Ça, c'est des sujets, comme Walter l'a dit, la RSE a été amplifiée, en tout cas la prise de conscience autour de la RSE a été amplifiée par la crise Covid. Je pense que la démarche qualité de vie au travail et la prévention des risques psychosociaux a été aussi accélérée par cette crise Covid. Et puis un dernier point, dans les enjeux qu'on a cités au départ, on n'a pas forcément cité cet enjeu de marque employeur qui est très important, puisqu'aujourd'hui les candidats ils sont en recherche de sens, et donc nourrir sa démarche RSE, c'est aussi participer à sa démarche marque employeur, c'est souvent très lié. Les entreprises aujourd'hui sur un marché très tendu des talents ont des difficultés de recrutement. Et donc, ça fait partie aussi des moyens d'attractivité que de travailler une politique RSE solide. Et puis de la communiquer. Donc c'est vraiment cette politique RSE une très chouette opportunité pour enrichir le métier de RH, d'actions qui ont du sens.
Ouais, donc finalement c'est ce qu'on voit bien à travers sa politique rémunération, sa politique sociale, sa politique de santé sécurité au travail. Bon nombre d'entreprises font déjà finalement un peu de RSE sans le savoir. Donc après il faut le formaliser, il faut le rendre un petit peu public, il faut communiquer dessus, mais beaucoup d'entreprises le font. J'avais une question subsidiaire du coup, Walter. Est-ce que vous pourriez simplement nous rappeler les différents piliers de la RSE pour qu'on comprenne bien justement que le volet RH s'inscrit dans le pilier social finalement de la RSE ?
Alors, en termes de piliers, on va retrouver, on va dire, la gouvernance d'entreprise, donc en termes de prise de décision, qui vont ensuite animer les piliers les plus connus, l'environnement, le côté sociétal, le côté social, avec la partie notamment RH, qui vont orienter, on va dire, tout un tas d'autres actions possibles dans la RSE.
Super, merci beaucoup Walter. Alors justement, maintenant qu'on a bien compris que bien souvent justement dans les PME, dans les grands groupes, les DRH pouvaient être moteurs en interne de ces sujets-là, finalement si on veut commencer à formaliser un petit peu les choses, on commence par quoi ? On fait comment, Walter ?
Alors, dans un premier temps, on va commencer par faire un état des lieux de la société. Qu'est-ce qu'on fait déjà dans le sens de la RSE et du développement durable. Et on va conduire ça comme un audit interne. Et pour cela, il est important de vraiment inclure tous les services de la société en termes de compétences et de champs d'action. Dans un deuxième temps, une fois qu'on aura fait l'état des lieux de la société, on va pouvoir développer l'ensemble de la stratégie RSE au travers d'objectifs qu'on aura fixé et qu'on aura surtout priorisé, puisqu'il est important dans la RSE de prioriser, puisque il faut pas oublier qu'on agit dans un contexte économique et dans un business. Et le business, malgré des valeurs du développement durable, reste quand même important.
Oui, il y a l'éthique, bien évidemment, à respecter, mais le sens premier quand même d'une entreprise, c'est de, entre guillemets, d'avoir des bénéfices, de la rentabilité, de faire vivre ses collaborateurs, bien sûr. Flore, aussi un petit état des lieux RH par rapport à ça, ce serait intéressant.
Oui, je rejoins tout à fait ce que dit Walter. C'est important, effectivement, de recenser ce qui se fait déjà dans l'entreprise, parce que souvent, comme vous disiez tout à l'heure, on fait de la RSE sans le savoir. Donc, recenser, effectivement, prioriser, c'est aussi impliquer toutes les parties prenantes, donc identifier toutes les parties prenantes, donc les collaborateurs, les fournisseurs, les clients, etc. Et puis, c'est important de commencer par des actions très concrètes aussi pour impliquer les collaborateurs. Je vais prendre des exemples très simples, mais le tri des déchets, si ce n'est pas fait. Bon, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fait majoritairement, mais ça peut aussi être de travailler sur les mobilités dans l'entreprise. Si on a des collaborateurs qui se déplacent ou tout simplement qui viennent au travail, comment on favorise le covoiturage par le développement d'une application ? Comment on favorise le fait de venir à vélo en proposant l'indemnité kilométrique vélo ? Donc des choses simples, mais qui permettent déjà de faire des petits pas, des premiers pas très concrets, et ensuite qui sont portés par l'ensemble des collaborateurs.
Oui, donc effectivement, on le redit, c'est faire un audit, prioriser, et puis après la technique des petits pas, en associant les collaborateurs qui, je suis sûre, sont plein d'idées, pour pouvoir répondre à ces objectifs. Alors, justement, quand nos participants, que ce soit des dirigeants, que ce soit des DRH, DRH ou des managers, viennent se former à ces CCI formations sur tous ces projets stratégiques, donc la RSE, le développement durable, le déploiement RH, justement, de cette politique RSE, avec quoi est-ce qu'ils repartent concrètement, Flore ?
Alors, ils repartent avec plusieurs choses. On fait d'abord un état des lieux du champ des possibles pour les inspirer. Donc ça, c'est très important aussi de se rendre compte de tout ce qui peut être fait. On voit aussi les étapes méthodologiques pour mettre en place la démarche et notamment comment appliquer ces fameuses parties prenantes, parce que c'est vraiment un enjeu très, très important dans une démarche RSE. Et puis, on travaille surtout sur un plan d'action personnalisé, c'est-à-dire qu'ils repartent avec des choses concrètes et des idées très concrètes sur comment ils vont pouvoir mettre en place les choses, des outils concrets. La formation, c'est aussi une occasion de prendre du recul et puis de partager avec ses pairs. Et dans cette formation sur les applications RH-RSE, on fait aussi un retour d'expérience 2 mois après. On met autour de la table les personnes qui étaient là en formation. Et donc, 2 mois après, cela permet, avec un peu de recul, de voir les premiers pas qui ont été faits et puis de se donner un objectif. C'est-à-dire que dans 2 mois, quand je vais revenir auprès de mes pairs, qu'est-ce que j'aurais mis en place ? Parce que ça motive un petit peu aussi d'avoir des échéances vis-à-vis de ses pairs.
Et oui, donc c'est chouette en plus parce que ça permet complètement de développer le réseau. Walter, en ce qui concerne votre formation sur la RSE et le développement durable.
Il me semble important de préciser que la RSE, c'est quand même malgré tout des outils, des moyens pour véritablement impulser une démarche RSE dans une organisation. Mais c'est aussi un suivi sur le moyen et le long terme, puisque nos services ne s'arrêtent pas une fois la formation terminée. Et ce qui est enrichissant dans les formations, c'est le partage des points de vue différents et de se servir des expériences des autres pour, on va dire, prendre du recul sur les erreurs à éviter, puisque il y en a malgré tout à éviter pour véritablement engager nos collaborateurs dans cette démarche qui est noble.
Et oui, c'est pas qu'un effet de communication, hein, surtout pas d'ailleurs, c'est aussi ce qu'on voit en formation. Eh bien écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour ce superbe échange. Donc pour connaître toutes nos sessions dédiées et ainsi mettre en place votre plan d'action, n'hésitez pas à nous contacter et nous ferons un plaisir de vous conseiller en inter comme en intra-entreprise. Vous pourrez bien sûr retrouver toutes les infos et tous nos podcasts sur www.ccciformationpro.fr. Un grand merci à vous et à bientôt.